Bienvenue dans le débat. Quand on observe une vieille démocratie, on s'attend souvent à ce que le système s'effondre avec fracas, non ?
Ah, c'est sûr, on imagine toujours un énorme choc externe majeur.
Exactement. Pourtant, la rupture historique de l'élection présidentielle française de 2017 nous montre que la bascule peut se faire totalement de l'intérieur, en réécrivant soudainement toutes les règles du jeu politique.
C'est vrai que le paysage a été complètement redessiné.
Voilà. Donc la question au centre de notre discussion aujourd'hui, c'est de savoir si cette élection représente un véritable renouveau démocratique, validant la fin des vieux clivages, ou bien si c'est une victoire par défaut qui masque de dangereuses fractures sociologiques. Personnellement, je soutiens que ce scrutin est la victoire magistrale d'une nouvelle offre politique centrale, la seule capable de s'adapter aux réalités de la mondialisation.
Et moi, je défends une lecture radicalement différente. Je suis convaincue que c'est un triomphe illusoire. Cette prétendue nouvelle offre s'est bâtie presque entièrement sur l'effondrement, en fait purement accidentel, des partis traditionnels et sur un rejet des extrêmes.
Mais attendez, on ne peut pas parler d'accident quand on voit le score. On parle d'une victoire à 66,10% quand même. Et d'une hégémonie parlementaire absolue avec En Marche dans la foulée.
Oui, mais...
Laissez-moi juste finir sur ce point. L'irruption de députés issus de la société civile prouve une vraie adhésion. Le candidat a su théoriser une rupture claire avec une vision européenne et optimiste. Il a vraiment capté un électorat inséré dans la mondialisation.
Je ne souscris pas du tout à cette idée d'adhésion massive, en fait. C'est un mirage politique. La scénographie triomphale au Louvre, avec cette marche solitaire, c'était brillant, symboliquement. Ça oui, mais c'était un écran de fumée.
Un écran de fumée, hein. Comment ça ?
Regardez les chiffres réels. L'abstention a atteint plus de 25%. C'est un record pour un second tour depuis 1969. Et vous ajoutez à ça plus de 11% de votes blancs et nuls.
Ce qui prouve qu'il y avait une attente différente, certes.
Ça prouve surtout un refus actif de cautionner ce nouveau bloc. Et les 10,5 millions de voix pour Marine Le Pen ce jour-là démontrent bien qu'on est face à une nation profondément meurtrie, pas du tout apaisée.
D'accord. Il y a de la frustration, mais ce vide n'explique pas tout. S'il y a eu un effondrement des anciens partis, c'est parce qu'ils n'étaient plus en phase avec l'époque. Ces vieux partis, c'était un peu comme des vidéoclubs à l'aube du streaming.
Des vidéoclubs, vraiment.
Oui. Ils proposaient un logiciel complètement obsolète. Ils n'ont pas compris que le vrai choix n'était plus fiscal ou social. C'était devenu binaire, l'ouverture internationale face au repli nationaliste.
C'est faire abstraction des circonstances historiques incroyablement spécifiques, en fait. L'espace central s'est vidé à cause de vraies catastrophes industrielles au sein des partis.
Vous pensez au scandale de la campagne ?
Absolument. Le renoncement inédit de François Hollande, la gauche qui s'autodétruit et relègue Benoît Hamon à 6,36%, et puis le scandale du canard enchaîné qui terrasse François Fillon. Ce n'est pas une évolution naturelle, c'est un boulevard inespéré qui s'est ouvert.
Ce sont des accélérateurs, évidemment, mais la fracture que cette élection a mise en lumière existait bien avant.
Sauf que cette nouvelle offre centrale est incapable de résorber cette fracture. Prenez l'affrontement sur le parking de l'usine Whirlpool à Amiens pendant l'entre-deux-tours. La fracture s'y révèle physiquement.
Oui, c'était une séquence très marquante de la campagne.
C'est frappant, oui. D'un côté, une approche institutionnelle, confinée dans une chambre de commerce. De l'autre, l'extrême droite sur le piquet de grève au milieu des pneus brûlés pour capter l'angoisse de la désindustrialisation. Ce sont deux blocs qui ne partagent plus la même réalité.
Mais l'angoisse ne fait pas un projet d'État. Et le débat télévisé du 3 mai l'a prouvé de manière cinglante.
Vous faites référence à la prestation de la candidate du Front National.
Exactement. Si la vision nationaliste était vraiment crédible, elle aurait tenu sur le fond. Or, elle s'effondrait toute seule. Les confusions techniques sur l'euro, l'agressivité, la fameuse poudre de perlimpinpin, tout ça a justifié sa défaite méthodique.
Elle a perdu la bataille de la crédibilité ce soir-là. C'est indéniable. Mais attention. Une victoire technique face à un adversaire qui s'effondre ne signifie pas que votre projet guérit le pays.
Le projet central s'est tout de même imposé comme le seul cadre rationnel, non ?
Oui, mais la digue du Front Républicain a cédé. Le barrage s'est transformé en passoire. L'opposition nationaliste a réussi sa transformation tactique pour devenir la seule vraie force de contestation.
Je maintiens quand même que 2017 a réussi l'exploit de recomposer le pays autour d'un pôle central dominant. Les anciennes structures n'avaient tout simplement plus les outils pour affronter la modernité.
Et je reste convaincue que cette redéfinition est un dangereux trompe-l'œil. Le ressentiment social n'a été ni traité ni vaincu, il s'est simplement accumulé sur les marges.
Ce qui nous ramène à la véritable question pour notre époque, cette recomposition était-elle une solution durable ou un simple pansement sur une fracture très profonde ?
C'est toute la complexité du paysage actuel. Et c'est là-dessus qu'il faut continuer à réfléchir.
Tout à fait. Nous vous laissons le soin d'y songer. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.